Bonsoir et bienvenue dans Parler de temps qui court. Tous les soirs, c'est une conversation qui dure une heure, et ce soir, avec le cinéaste Jean-Gabriel Perriot.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Jean-Gabriel Perriot.
À quel moment du combat se demande-t-on si l'on a perdu de toute façon ou s'il ne s'agit là que de quelques batailles? Vous nous direz tout à l'heure, Jean-Gabriel Perriot, à quel moment vous avez décidé, vous, du titre de votre dernier film, Nos défaites. Est-ce un constat? Est-ce un point de départ? Est-ce une presque tendresse pour le chemin parcouru? Dans le cadre d'un atelier cinéma avec des élèves du lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, municipalité communiste de ce qu'on a longtemps appelé la ceinture rouge autour de Paris, vous proposez de rejouer des scènes de plusieurs films politiques de la fin des années 60 et début des années 70. Les élèves, devant et derrière la caméra, interprètent super bien des vies, des corps et des discours pourtant éloignés d'eux en apparence. Et puis il y a du temps qui passe, entre juin et décembre 2018, une grève lycéenne et un blocage plus tard, votre film se termine sur un élan, sinon victorieux, en tout cas très simplement vivifiant, dans la voix d'une toute jeune femme. Aimez-vous et battez-vous pour le meilleur. Bonsoir à vous, Jean-Gabriel Perriot.
Bonsoir.
Votre film Nos défaites sort en salle demain. Et on va commencer par un extrait.
Depuis le début. Hein? Depuis le toutou. Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux ou ce que dit France Dimanche, c'est quand même formidable. C'est notre gueule, non?
Oui, c'est sensationnel.
Il y en a qui sont pas conscients encore.
C'est pas sensationnel, c'est normal, c'est la classe ouvrière et c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi. Que les gens, que c'est pas les conneries qu'on nous raconte qui sont belles. C'est pas ce qu'il n'y a pas dans France Dimanche ou dans Ici Paris, mais c'est dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, personne n'y prend parce que des copains ont été licenciés et versé cette somme de salaire à ces gars-là pour avoir un salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le développer. C'est pas de la culture, ça?
Si, même beaucoup.
Là, je veux dire aussi au patron qu'on vous aura. C'est sûr, parce qu'il y a cette solidarité et qu'ils ne savent pas ce que c'est. On vous aura, on vous en veut pas encore, terriblement, à ceux qui se prennent un peu pour des patrons et qui ne le sont pas. Mais ceux qui détiennent le capital, on vous aura. C'est la force des choses, c'est la nature et à bientôt, j'espère.
Je sais pas, moi. Comparé à ce que nous dit Guy Lux, ou dans France Dimanche. C'est quand même formidable. C'est notre gueule, non?
Il y en a qui sont pas
conscients. Non, c'est pas sensationnel. C'est la classe ouvrière. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience. Que les gens... qu'il n'y a pas que les conneries qu'on nous raconte. Dans France Dimanche ou dans Ici Paris qui sont belles. Mais dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés. Et encore aujourd'hui, devoir leur verser une somme d'argent pour que ces gars-là aient un salaire d'assuré. Si on pouvait le cultiver, ça, un peu. Ça, le savait, ça. C'est pas de la culture, ça? Et là, je veux dire au patron qu'on les aura. Parce qu'il y a cette solidarité qu'eux ne savent pas ce que c'est. On vous aura. Oh, on n'en veut pas encore terriblement beaucoup à ceux qui se prennent pour des patrons et qui ne le sont pas. Mais ceux qui détiennent les capitales, le capital, on vous aura. C'est la force des choses, c'est la nature, et à bientôt j'espère.
Voici deux versions, Jean-Gabriel Perriot, rejouées par des lycéens de ce film de Chris Marker et Mario Marais, 1968, à bientôt j'espère. Et au tout début, on entend la jeune femme face caméra demander si on reprend depuis le début, ce qui... tout du long du film sera votre règle de montage, en tout cas, de laisser le dispositif à vue, qu'il s'agisse de la perche, des reprises, de quelques points de montage parfois assez évidents. J'ai envie de commencer par ça, Jean-Gabriel Perriot. J'ai l'impression que, en faisant ces choix-là, vous nous dites que c'est le processus qui compte.
Oui, j'avais envie, quand j'ai vu les rushs, enfin quand j'ai commencé à monter, de laisser tout ce que normalement on enlève, c'est-à-dire les débuts de plan, les fins de plan, les moments où on se trompe un petit peu, etc., parce que ça permet de voir le travail à l'œuvre. Le travail qui est invisible normalement, ce travail-là, et je trouve que c'est toujours des endroits où il y a une espèce de chose très touchante chez eux qui se passe dans ces petits bouts. On voit leur implication, on voit le visage est plus le même, et c'est vrai que ça permet d'ailleurs à contre-coup de voir aussi le moment où ça commence, où ils deviennent comédiens. Ce qui était quelque chose de très réconfortant pour moi. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouvais ça très réconfortant.
Ce moment où ils deviennent comédiens, vous trouviez ça réconfortant?
Les petits bouts d'avant et les petits bouts d'après.
Parce que ça vous racontait quoi?
Je sais pas, leur investissement, leur énergie, leur ça les rend très proches, quoi, très. C'est pas juste le fait qu'ils jouent bien, qu'ils interprètent bien, mais aussi, je sais pas, on voit cet investissement, ces petites choses de fragilité qui font que ça y est, quand ça tourne, ça, il y a dans c'est pas les mêmes, et j'aime beaucoup les voir changer.
Parce qu'on les voit qui se lancent.
Oui.
On voit justement cet élan qu'aura différentes traductions à l'image, dans leur voix, dans leur corps, au fur et à mesure du film. On a entendu deux versions d'un extrait de « À bientôt, j'espère ». Comment avez-vous choisi les films à partir desquels vous avez travaillé ensemble et les extraits des films à partir desquels vous avez travaillé ensemble ?
En fait, j'avais pas d'idée du film à venir quand je les ai rencontrés. Au début, les premières séances, j'avais juste l'envie de faire un film qui trahit la parole. Mais bon, c'était un petit peu large. Et je leur ai montré pas mal de documentaires axés sur la parole, alors de temps et de géographie très différentes, hein, avec des situations de vie très différentes. Mais je voulais leur montrer des films où des gens qui normalement n'ont pas accès à l'espace public, d'un coup trouvaient des places dans le cinéma, où le cinéma leur offrait comme ça le temps de s'exprimer. Et ils étaient assez touchés, hein, globalement, par ces films, mais sur les dans ces groupes de films, j'aurais montré des films, voilà, autour de 68 ou post-68, milieu ouvrier. Et ça les a particulièrement, il s'est passé quelque chose sur ces extraits-là, parce que déjà c'était en France, peut-être des situations qu'ils avaient du mal à saisir, mais qui étaient malgré tout proches d'eux, le travail, par exemple, ou les grèves, enfin, il y avait comme ça des résonances. Je crois qu'ils ont été très touchés par l'énergie qui était, des protagonistes qui apparaissaient dans ces films-là. Le fait, je sais pas, peut-être qu'on puisse pas tout à fait bien parler le français et malgré tout apparaître dans un film. Et du coup, à partir des premières discussions qu'on a eues sur ces extraits-là, j'ai décidé que du coup, ça deviendrait le projet du film, en fait, de retraverser ce cinéma-là et cette période politique. Et après, sur le choix des extraits qui finalement se retrouvent dans le film, je suis allé vers eux avec un choix de à peu près 25 extraits de films de typologies très différentes. Et je leur ai demandé de choisir ce qui était leur préféré, ce qu'ils voulaient travailler. J'avais besoin qu'ils s'emparent et qu'ils choisissent les extraits qu'ils allaient travailler. Il faut qu'il y ait du désir pour qu'il y ait une le fait qu'ils s'investissent dans le travail. Et j'étais très surpris de leur choix parce que, par exemple, ils avaient totalement éliminé les films avec des étudiants ou des films avec des plus jeunes. Et ils sont allés chercher des extraits que parfois on peut considérer un peu dur quand on n'en prend qu'un extrait, parce que c'est soit des extraits très précis en termes de vocabulaire, des situations un peu compliquées à comprendre, hein, quand on les voit comme ça, et je les ai trouvés assez étonnants dans leur choix.
Est-ce que vous sauriez dire, vous, pourquoi est-ce que vous alliez vers eux avec le désir de travailler sur la parole? Est-ce que ça concernait votre parcours de cinéaste, peut-être votre parcours de citoyen, ou est-ce que ça concernait votre percussion d'un monde, de ce que c'est que d'avoir 16, 17, 18 ans aujourd'hui en France?
En fait, j'ai l'impression que c'est pas le premier film que je fais avec des groupes. J'ai fait deux films en prison, j'ai fait un film avec un chœur amateur de femmes âgées en banlieue, et je crois que quand je fais ces films-là, y compris donc celui avec les lycéens, je le fais aussi pour essayer de connaître les gens avec qui je travaille. Et du coup, de passer par la parole, ça fait que du coup, on est obligé de discuter du film à venir, mais on discute aussi de ce qu'on va dire, de comment on le dit. Et je pense que c'est une manière pour moi de, je sais pas, de les connaître mieux. Et là, les lycéens, l'invitation, je l'ai acceptée parce que j'ai rarement dans ma vie l'occasion de passer autant de temps avec un groupe de jeunes et d'essayer de comprendre qui ils sont aujourd'hui, qu'est-ce que cette jeunesse, comment elle va débouler, et du coup passer plusieurs mois et d'inscrire la parole dans le projet lui-même, plutôt que, je sais pas, une fiction ou un documentaire d'observation, faisait que forcément j'allais créer de la discussion.
Dans ce lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne, donc, cette initiative d'inviter des cinéastes est une initiative récurrente qu'on salue. Ça a donné lieu, par exemple, à un travail poursuivi par Claire Simon qui s'est appelée Première Solitude. On en avait parlé avec elle, on l'écoute.
Pour moi, c'était une grande chance de rencontrer ces jeunes gens. Voilà. Et donc, j'y suis pas allée avec des images. C'est quand j'ai commencé à proposer ces conversations que des images de cinéma sont venues vers moi, comme ça, mais plutôt au niveau des cadres. J'ai toujours l'impression que les jeunes gens, qu'ils soient des tout petits enfants ou des jeunes gens, ils ont le futur en eux. Donc moi, j'ai tout à apprendre d'eux. Je peux pas arriver avec des idées préconçues. Parce que c'est eux qui savent. C'est pas moi. Donc moi, je suis très intéressée de découvrir quel va être le futur. Et quand je les écoute, c'est ce que j'entends.
Elle avait travaillé avec d'autres jeunes gens que celles et ceux que vous avez rencontrés, Jean-Gabriel Perriot. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Claire Simon dit qu'elle avait de la chance parce que ce sont eux qui savent. Et une partie du dispositif que vous utilisez dans nos défaites interroge leur savoir.
Oui. Oui, mais ça s'est fait. Ça, c'est la manière dont les films s'inventent ou apparaissent, on va dire. Dans le champ du documentaire, c'est-à-dire que je n'avais pas de préconçu sur ce qu'ils pouvaient dire ou ce qu'ils allaient dire, et ça a été une des surprises du tournage. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. On a parlé évidemment beaucoup des extraits qu'on allait travailler. On a parlé beaucoup de politique, du coup. On a parlé du vocabulaire employé dans ces extraits. Et je me suis rendu compte lors des interviews où l'idée, moi, des interviews, c'était de leur demander, d'aller vers eux et de leur demander, bon, à partir là, on a passé plusieurs mois, on a travaillé ces extraits. C'est quoi votre point de vue sur ça? Sur, pas forcément que sur 68, mais sur la politique en général, sur ces mots, sur... J'avais envie de savoir comment ils se plaçaient par rapport à ça. Et ce que je découvrais dans ces interviews, c'est que finalement, beaucoup de mots leur échappaient. Très simplement, même des mots que nous avions traversés ensemble, d'une certaine manière, comme si j'étais le premier à avoir parlé avec eux de ces mots-là, et que, on le sait bien, une seule fois ne suffit pas. Mais que du coup, j'étais très surpris que le fait que dans les interviews, effectivement, il y avait principalement un manque de vocabulaire, et on ne leur a pas donné les concepts de base de la politique. Hein. Je parle pas de bord politique ou de quelle opinion politique on a, mais juste des mots eux-mêmes. Et ça, c'était très troublant. Là, il s'est passé quelque chose pour moi de très troublant parce que c'est effectivement très difficile ensuite d'articuler une pensée, de parler de ses désirs, d'où l'on est sur les questions de la politique si on n'en a pas les mots de base. Par chance, ils arrivent malgré tout à s'exprimer.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour autant, ils ne sont pas complètement dénués de savoir politique ou de force politique assez brute. C'est-à-dire qu'avant même d'être en mesure de l'articuler avec une façon de lire la scène politique ou l'action politique, ils disent quand même des choses qui ont à voir avec ce que c'est que de vivre ensemble.
Ah oui, c'est ce que j'ai trouvé, du coup, quand on a tourné, qu'après j'ai monté, ou la force pour moi de ces interviews, du temps, c'est de montrer très, très clairement cette contradiction avec d'un côté, on pourrait dire, oh mon Dieu, les pauvres, on leur a pas donné les mots. Et de l'autre côté, je pense qu'on leur a pas donné beaucoup d'enthousiasme, mais ils l'ont quand même. C'est-à-dire, ils expriment très clairement qu'ils pourraient lutter, qu'il y a des inacceptables, que, oui, que rien, tout est possible dans leur avenir, dans la manière dont ils vont se poser face au monde, dont ils vont inventer le monde à venir. On sent qu'il y a, voilà, il y a, c'est pas éteint. Enfin, c'est très réjouissant même. C'est juste un peu triste que ça soit qu'on les aide pas beaucoup sur sur ce chemin-là, sur le fait de se trouver et de se construire leur propre modèle. Mais
vous disiez à Révier, Jean-Gabriel Perriot, sans préconçu, sans savoir qui vous aviez trouvé ou ce que vous alliez trouver. Ça veut dire que les découvrir pas éteints, les découvrir dans un tout est possible, ça vous a étonné? Vous vous disiez que peut-être ça pouvait l'être éteint?
Non, parce que j'espère, j'ai toujours un peu un principe d'optimiste avec d'optimisme envers la jeunesse. J'espère toujours que, un moment, une génération où la jeunesse va réussir à créer un nouveau monde, ou en tout cas, essayer de nous sauver un petit peu. tout ce que nous on n'arrive pas à faire, ou tout ce que moi en tant qu'adulte je n'arrive pas à faire. Mais c'est vrai que je présente beaucoup mes films depuis une dizaine d'années, je pense, dans les lycées, et que quelque chose a un peu bougé dans les débats que je fais avec eux depuis longtemps, que ces dernières années. Alors, je ne sais pas si c'est les hasards des classes que je rencontre, des films que je montre, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de protection dans ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire que face à mes films qui parlent souvent de lutte politique, là, il y avait comme une espèce un peu de retenue. Ça veut dire, oui, bon, les gens, ils ont obtenu leur liberté, ils ont... Mais tout ça est un peu violent, tout ça est un peu abstrait. Il y a quelque chose à bouger. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. J'imagine beaucoup de la manière dont les programmes sont faits dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que de plus en plus, quand je remonte ces films-là, c'est comme si c'était de plus en plus loin d'eux.
Il y a peut-être du temps qui passe aussi.
Oui, mais je fais aussi des films sur des luttes contemporaines. C'est comme si, voilà, j'avais une petite couleur comme ça. Et c'est ça que j'avais envie de passer plus de temps que juste 2 heures avec eux, mais de passer plusieurs mois pour voir... pour être un peu plus clair avec moi-même, enfin pour pas me dire oui bon j'ai l'impression que ça s'étiole un peu, donc non, il faut y aller, il faut voir, et ça m'a confirmé qu'il faut toujours croire en eux, quoi, rien n'est résolu.
Alors ce titre-là, il est venu quand, d'où nos défaites, il est intervenu à quel moment de ce projet, Jean-Gabriel Perriot?
Il est arrivé au tout début du montage. Alors c'est toujours particulier, j'ai du mal à comprendre comment les titres apparaissent de mes films. Hein. C'est un processus, souvent dans le travail, il y a un moment un titre apparaît et ça doit être celui-là.
Lumière d'été, une jeunesse allemande, pour parler des longs-métrages, mais toujours assez signifiant. Enfin, les titres sont signifiants, mais il y a quelque chose que vous dites en plus de assez fort quand vous titrez.
Oui, c'est vrai. C'est... Alors, je le maîtrise pas vraiment, comme je disais, ça apparaît. Des fois, je me bats un peu contre mes titres. Là, c'est vrai que Nos Défaites, j'ai tourné beaucoup autour et j'ai essayé de changer d'autres couleurs. Par exemple, en essayant des choses plus positives. Mais il y avait une petite part de mensonge. Je me sentais un peu mentir et du coup, j'ai gardé ce titre qui s'était imposé. Et qui s'était imposé parce que, après les interviews et quand je les ai entendus à froid, je me disais quand même... tout ce qu'on ne fait pas pour eux, tout ce qu'on n'a pas fait, quoi. Il y avait plein de niveaux d'endroits où ça me rendait un peu triste ou un peu effondré. Ça veut dire le fait qu'à 17 ans, l'école n'apprenne plus les bases de la citoyenneté. Enfin, en tout cas, j'ai une classe complète qui, on ne leur apprend pas les mots de la politique alors qu'ils vont voter un an plus tard. Que 68 est, de manière claire avec eux, devenu du passé, révolu. Et quand on voit la fin du film, qu'ils accèdent vraiment à la vraie politique, c'est-à-dire celle qui va les changer, parce qu'on leur envoie la police. Et que tout ça, n'est pas des très bons signes de la société telle qu'elle va. Et j'avais besoin de placer cette chose-là. Ça veut dire, c'est pas absolument leur défaite, le « nos » est très important, c'est nos défaites en tant qu'adultes, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la transmission. Et en même temps, il y a un autre sens qui est, pour reprendre votre introduction, ça veut dire que je pense qu'il faut faire des constats aussi. C'est-à-dire, on peut pas lutter, on peut pas avancer si, de temps en temps, on regarde pas où on en est.
Comme un état des lieux, en fait.
Un état des lieux. Il faut, ça pour moi c'est très important. Il n'y a pas de, faut éviter la naïveté des fois de se dire bon on fait quand même des choses, etc. Mais de temps en temps il faut se dire regardons quand même malgré tout le résultat de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Et c'est qu'une étape, c'est-à-dire un moment. Et ça s'est exprimé. C'est pour ça que je m'étais permis de garder ce titre parce que eux-mêmes dans le film, dans la première partie du tournage et dans, évidemment plus dans la deuxième, parlent de ça, de certains d'entre eux disent qu'il faut malgré tout lutter, qu'il faut continuer, que même si on gagne pas, il faut quand même le faire, montrer qu'on est là. C'est très important, le fait qu'on gagne ou pas n'est pas le plus important, c'est la lutte qui l'est. Et il faut aussi se défaire de l'idée de perdre. C'est pas grave de perdre, il faut quand même montrer qu'on est là, qu'on existe, et eux le portaient déjà avec leurs mots. Et du coup, d'une certaine manière, c'est eux qui m'ont validé que je pouvais utiliser ce titre-là.
À titre personnel, ça voulait dire qu'il fallait vous aussi, en tant que cinéaste, en tant qu'homme, vous poser la question des échecs de transmission, des endroits où vous aviez perdu ou bien quelque chose, ou bien une partie du combat. C'était un bon moment pour vous ? Bon moment, un moment sympa, mais juste un bon moment en termes de temporalité.
Je crois que de manière générale, j'ai quand même souvent un cinéma de constat. C'est pas le seul film où je dresse des constats. J'ai même tendance à m'intéresser à me confronter à ça, à mes propres erreurs ou ma propre absence d'investissement politique d'une certaine manière, ou le fait que quoi que je fasse J'ai vécu très peu de luttes gagnées, par exemple. Donc il y a quelque chose où j'estime que je suis aussi responsable de l'état du monde et de la société dans laquelle je vis, au lieu de toujours reporter sur des adversaires ou sur les politiciens, etc. Donc j'ai besoin de me confronter dans le cinéma aux choses qui me posent problème, justement, aux choses que je n'arrive pas à résoudre. C'était un peu ça parce que... Ça vient d'eux, le hasard du film. Je comptais pas forcément travailler sur la politique directement, mais c'était aussi un bon moment, moi, en tant que cinéaste. Ça veut dire je fais des films, on va dire, plutôt politiques, je travaille avec des gens, et finalement, je lutte contre, dans le fond, le fait que je pense que tout ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert, mais pas à grand-chose non plus. Et du coup, là, on le voit très bien dans le film, c'est qu'on peut parler... Je peux passer 6 mois avec eux à travailler sur les questions de la politique, on peut passer des heures à refaire des remèques, à travailler. Malgré tout, ça ne sert... C'est petit ce qui se joue, d'une certaine manière, et ce qui va leur apprendre, c'est pas moi, c'est le réel. C'est leur propre lutte.
Quand on a dit « je vais me faire la voix optimiste de l'affaire », mais quand on a dit « pas grand-chose », on a dit « pas rien non plus ».
Ah, je n'ai jamais dit rien. Mais c'est petit, en fait. C'est malgré tout petit. Je sais que... Enfin, en tout cas, il me semble que ma place de cinéaste, dans une lutte plus globale ou sur les questions de la politique, c'est petit. C'est nécessaire. C'est utile. Mais c'est pas non plus... Je pense que faire un film ne sera jamais aussi puissant, ne serait-ce que à les manifester ou que agir dans la vie quotidienne.
Ça, vous en êtes convaincu?
Oui.
Et pourtant, c'est aussi un film qui parle de cinéma. On va écouter Jean-Luc Godard.
Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est arriver à donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais eue. Ouais. Et qui peuvent la prendre, parce que c'est facile à prendre, justement.
Et qui ne sont pas des cinéastes, pas des spécialistes.
C'est ça, alors eux parlant, ouais. on connaîtra une nouvelle parole, on connaîtra une nouvelle parole avec eux à ce moment-là. Ceux qui...
Peut-être qu'on pourra faire du cinéma à partir de ce moment-là.
Voilà. C'est pas une des choses à ne plus faire, c'est des interviews, par exemple, ouais. Qui est une... qui est vraiment... Non, mais on est tellement influencé, on n'a pas idée de parler aux gens... d'une autre façon, et même les gens n'ont même pas l'idée de répondre autrement. Ça, c'est une idée qui vient de Platon, l'interview de Socrate et de Platon, qui est justement une idée esthétique de classe ou je sais pas quoi, mais qui est complètement fausse, qui fait que les gens n'osent plus parler et ne parlent pas leur parole à eux et ne parlent pas la parole de l'autre. Mmh. Et alors on parle une espèce de parole qui n'est rien. Là, ce qu'on dit en ce moment n'est rien.
Ouais. Tu veux, il faut. C'est... On ne peut pas faire un film en dehors de la.
En dehors de pas des films complètement utiles, c'est déjà des films qui ne veulent plus faire autre chose. Parce qu'il y a le problème aussi de l'information. La première chose, c'est de faire des. Quand même d'enregistrer des sons et de filmer des images qui ne sont pas filmées par les révisionnistes ou les impérialistes. Mmh. Alors, il y a des. Mais il faut bien savoir que c'est un premier travail, c'est le travail d'urgence, c'est certain. Comme il n'est pas fait, c'est le travail d'urgence de montrer ça. Alors ça, tout le monde est d'accord. Après ça, justement, il y a beaucoup de divergences parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. C'est pour ça qu'il faut le faire quand même de plus en plus, parce que comme ça, on acquiert une pratique et peut-être qu'il y aura beaucoup de cinéastes qui découvriront qu'ils ne doivent plus faire de cinéma. Mmh.
Voilà, dans un film de Claudia von Allemann, la voix de Jean-Luc Godard en deux temps, à la fois l'urgence à tourner des images, à enregistrer des sons qui ne soient pas ni tournés ni enregistrés par l'impérialisme ou le capitalisme, et en même temps, une fois qu'on a fait cela, à produire un regard extrêmement critique sur ce qu'on a fait, notamment l'impossibilité, selon Jean-Luc Godard, d'enregistrer de la parole qui soit vraiment... de la parole à eux. Jean-Gabriel Pariot, Godard fait partie des cinéastes auxquels vous empruntez des extraits que vous faites rejouer aux lycéennes et aux lycéens d'Ivry-sur-Seine. Quelle est votre réaction à ces deux constats-là qui sont qu'avancent sur deux jambes mais qui nous obligent à boiter, quoi?
Non, il a, comme souvent, hein, Godard pose brillamment tous les enjeux. Oui, la raison, c'est que le temps du cinéma... Est un temps qui permet l'enregistrement de la parole de l'autre. C'est-à-dire, on n'est pas dans le champ de la télévision qui doit être assez rapide, où on va chercher des réponses un peu faites ou des petits bouts. Le cinéma permet de faire des interviews où le temps joue. Et c'est dans le temps de l'interview, c'est-à-dire en laissant vraiment les personnes s'exprimer, réfléchir, se poser, que ça va se jouer. Là, on le voit très bien avec les lycéens, le fait qu'on le... on passe du temps avec eux, on commence à les connaître, on entend les contradictions de ce qu'ils racontent, on entend leur, les, tout se construit parce qu'on les écoute longtemps. Le temps est vraiment la chose très importante et il a raison, ça veut dire que seul, malgré tout, le cinéma ou quelques petits espaces dans d'autres médias...
Coucou la radio quand même.
Voilà, coucou la radio, laisse le temps aux gens de s'exprimer et notamment à ceux qui normalement n'ont pas accès à la parole, c'est-à-dire les classes populaires, les classes ouvrières et...
une certaine partie de la jeunesse.
Et là, une certaine partie de la jeunesse et ça, il a raison, faut le capter parce que c'est quand même la majorité et que cette majorité-là, en général, n'a pas accès à la parole.
Ce qu'il dit aussi, c'est que c'est toujours ça de pris, c'est-à-dire que tandis qu'on le capte, ce ne sont pas d'autres choses qui sont captées d'une autre manière. Donc lui, il agence quand même les choses en termes de force en présence. Oui. Puisqu'il y a des images et du son qui est produit par un certain système, autant que l'autre partie du système en présence produise lui aussi ses images et ses sons. Oui, une sorte de presse de masse, en fait.
Oui, Godard est toujours celui qui dit qu'il ne faut pas laisser tout l'espace aux adversaires. Là, il cite le capitalisme, je sais pas de quand date l'interview, j'imagine les années 70. Ça veut dire qu'il faut prendre les moyens et produire dans tous les cas. C'est-à-dire faut pas laisser tout l'espace à ses adversaires.
Et en même temps, après, il dit bon...
Oui, après, il a raison. C'est-à-dire sur les interviews, malgré tout, c'est la grande discussion avec... entre les groupes Ziga-Vertov, donc avec Godard, et les groupes Medvedkin, avec Marker, la question de celui qui filme, de celui qui fait ses interviews. Et effectivement, quand on est cinéaste, ou comme moi, je le vois dans le processus, c'est-à-dire que malgré tout, on est celui qui pose les questions, on est celui qui pose les conditions de la captation de la parole. Et réussir à faire surgir une parole qui soit la plus proche de celui qui est interviewé n'est pas facile du tout et même inatteignable d'une certaine manière puisque on pose un cadre à l'image, on pose une caméra, on pose les questions, on pose un processus qui fait que la parole ne se capte que dans ce cadre-là. Mais Godard, là, il a raison de le souligner parce que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose à chaque fois que l'on filme et qui sont des questions essentielles et qui sont très difficiles à résoudre si tant est qu'elles le soient.
Notamment qui se posent au montage, on imagine Jean-Gabriel Perriot, puisque vous faites le choix de laisser des bouts d'interview avec ces lycéennes et ces lycéens qui donc réagissent aux extraits de films qui viennent de rejouer, donc des fictions, qui réagissent face caméra dans une scansion dialoguée avec vos questions à vous et que vous ne montez pas. C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être que ça dure plus longtemps, mais nous, ce à quoi nous avons accès, ce sont des plans séquences avec leur hésitation, leur sourire, leur regard caméra, leur regard dans le vide, etc. Montez pas parce que c'était pas possible à monter, parce que vous n'avez pas voulu monter. Pourquoi est-ce que ça arrive comme tel? Parce que ça donne lieu à des mollesses parfois, à une élaboration un peu comme ça, hésitante. Il n'y a pas vraiment de recherche d'efficacité dans votre montage.
Non, mais je voulais l'éviter, en fait. Et ce qui donne la durée au film, c'est un moment essayer de retranscrire par le montage l'expérience réelle que j'ai eue avec eux pendant les interviews. C'est-à-dire, souvent, des débuts un peu hésitants. Et surtout, les questions au début étaient un peu plus précises sur des mots. Parce qu'à chaque fois, je les interrogeais sur les mots qu'ils venaient de jouer. Donc du coup... Ils sont un peu tétanisés, ils connaissent pas les réponses. Moi, je suis aussi un petit peu stressé. Je suis pas quelqu'un qui fait très facilement des interviews. Hein. Et dans le temps de l'interview, les choses s'adoucissent, une confiance se prend et ils commencent à s'exprimer de plus en plus, de mieux en mieux. Et je voulais que le montage traduise le mouvement qu'ils ont eu pendant les interviews. Et donc, il fallait qu'il y ait de la disparité, c'est-à-dire qu'il fallait que je mette les moments de où ils étaient un peu à côté. Et que je mette les moments où ils arrivaient plus clairement à s'exprimer pour montrer ce cheminement-là. Si j'avais mis, par exemple, que les moments où très clairement ils disent « voilà, moi je vais m'engager pour ça », etc. Effectivement, on aurait eu un portrait d'une jeunesse beaucoup plus engagée, presque militante, mais qui aurait été fausse. Qu'aurait été fausse, ça veut dire que je me serais fait plaisir moi. J'aurais répondu au cliché de « la jeunesse s'engage ». Ou j'aurais pu faire un film, au contraire, où je mettais que les scories, que ce qui allait pas, en disant, voyez, quand même, c'est un problème, aujourd'hui, ils ne savent rien. Et le réel est entre les deux.
Ce qui est intéressant, c'est aussi d'entendre, parce que vous n'êtes pas dans le champ, Jean-Gabriel Perriot, votre voix et la manière dont vous-même vous vous déplacez. Les premières formulations de vos questions sont quasiment des analyses de films qu'on pourrait en produire à l'université. Bien sûr, on sent que c'est adapté au public que vous avez en face de vous, mais néanmoins, ce sont des questions précises, vous leur demandez. Et puis, plus la conversation avance et plus vous déplacez sur des choses plus intimes, plus directement adressées à eux, aussi comme si vous vous délestiez, que vous rendiez compte que peut-être que votre terrain de réel dialogue avec ces jeunes-là, c'est des choses, je sais pas, contraires au bonheur, à la joie, des choses moins. Vous voyez de quel déplacement je parle ?
Oui, mais ça a joué ça effectivement sur le montage, sur le fil du film, le fait que les extraits soient très divers malgré tout. Et dans les extraits choisis, il y a des choses qui sont très clairement des discussions sur la CGT, les moyens d'aboutir à la grève ou des choses comme ça qui poussent à des interviews du coup un peu plus claires, un peu plus précises. Et il y avait aussi des extraits sur la culture. Là, quand on entendait l'extrait d'À bientôt j'espère, que la lutte ouvrière, c'est de la culture. Et c'est une idée étrange. Et du coup, je voulais en discuter avec eux. Il y a cet extrait où cette femme parle du bonheur. Elle croyait au socialisme, elle n'y croit plus. Du coup, elle ne croit plus au bonheur. Et les extraits même permettaient des ouvertures, comme ça, sur d'autres choses, mais qui sont aussi des questions fondamentales de politique. C'est-à-dire, pourquoi on lutte ? Et le bonheur est important. Il n'y a aucun extrait sur l'amour, mais il y aurait pu y avoir l'amour, même... Voilà, l'amour arrive dans le film à la toute fin du film, mais la politique, c'est pas juste des mots et c'est pas juste des luttes précises, c'est aussi comment on vit, pourquoi, qu'est-ce qu'on attend en général de la vie.
C'est parce que ça touche à des sens profonds pour les jeunes gens que vous avez en face de vous lorsque vous leur demandez est-ce que c'est possible d'aimer l'art et la poésie quand on est un ouvrier, qu'on a été assez peu éduqué d'une manière classique, est-ce que c'est possible d'aspirer au bonheur lorsqu'on a renoncé à des idéaux politiques. D'un seul coup, on sent qu'ils tiltent vraiment. Que oui. C'est aussi à ce moment-là qu'ils se réveillent, qu'ils ont des choses à dire sur ces choses-là.
Oui, ils ont beaucoup de choses à dire et c'est étonnant. Quand il y a cette question qui vient d'un film, de ce que dit cette femme dans le film, que grosso modo les ouvriers ne peuvent pas comprendre l'art, d'avoir une jeune fille d'aujourd'hui qui dit bah non, c'est faux. On peut tous comprendre, c'est pas des questions de classe sociale. On se dit ah oui, ça donne tellement d'énergie. Moi, je trouvais ça vraiment très très beau. C'est très étonnant comment on sent que tout ça résonne encore en eux, vraiment, que c'est encore actif, et c'est assez partagé. Ça, c'est réjouissant sur cette classe. Il y a du désir.
Et elle dit, je trouve la formule extraordinaire qu'on peut pas être heureux comme tout le monde. Oui. Que comme on est différents tous, on peut pas être heureux comme tout le monde. Bon, ok, moi je pense que c'est un super sujet de bac, quoi.
Ah oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, c'est une chose qu'on retrouve souvent dans le film, dans leur réponse. Alors, c'est probablement une chose d'âge, hein, de cette relation entre l'individu et le groupe. Ça veut dire qu'il faut tous être différents. En même temps, il faut tous être jugés, par exemple, dans le travail, au même titre. Mais la question de comment on s'affirme, en fait, est une question qui les taraude.
Notamment dans le rapport à la règle. C'est assez étonnant ce qu'ils produisent comme parole, individuellement et collectivement, sur la règle. Et ça résonne évidemment différemment quand arrive l'horizon final du film où la police, une forme de répression des manifestations lycéennes, ces événements à Mantes-la-Jolie où un groupe entier de lycéens et lycéennes ont passé 3 heures, à genoux dans un cours de parking. Mmh. On sent que la question à la règle est aussi en écho avec la règle probablement parentale avec laquelle ils doivent dealer, est une dimension importante de votre film, Jean-Gabriel Perriot.
Oui, ça vient je pense, beaucoup au début des extraits qui sont joués, parce qu'on voit beaucoup de gens qui refusent les règles, une fois, puisque c'est des grèves, ou les extraits de fiction avec La Chinoise de Godard, où c'est un appel à la révolution, donc à se défaire de la loi, et à même attaquer la loi. Et du coup, beaucoup de ces extraits interrogent ça, donc dans les interviews, ils en parlent, et c'est des choses, je pense que c'est évidemment encore une chose d'âge, ça veut dire à quel moment on peut dire non, à quel moment on peut refuser l'ordre de l'école, de la famille, on ne sait pas trop si on a le droit de le faire, quelles seront les conséquences, et malheureusement, voilà, quand arrivent les luttes étudiantes l'année dernière... Mantes-la-Jolie, etc. Là, ça les a éclairés. Ils le disent très bien que d'un coup, la règle des adultes et la règle de la police, d'un coup, devient inacceptable. Là, il y a une espèce de saut. Ils deviennent adultes avec ça, en se disant que la loi n'est pas... On doit questionner la loi et les règles. et qu'elles ne sont pas forcément justes. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Jean-Gabriel Perriot.
Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université, mais pour voter, même par une croix à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux vous refusez d'y aller, un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique à bétail pour aller plus vite comme en Amérique. Mais c'était à Selma, Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les étudiants ont manifesté par la police, ont subi des sévices, mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois, c'était leur chair, c'était leur sang, les bourgeois de la ville ont renié publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout?
Notre présent est tressé de multiples passés. Il faut surtout pas s'en tenir à ça, c'est-à-dire le passéisme et l'attitude formellement nostalgique, officiellement nostalgique, c'est une catastrophe, c'est juste une catastrophe. Ce qui compte, c'est de prendre conscience que nos désirs, c'est-à-dire ce qui, dans le présent, nous meut vers le futur, nos désirs sont tressés de passé. Mais alors attention, quel passé? Il y a le passé idéal, il y a le passé officiel, il y a le passé de l'institution, il y a le passé de l'inhibition, par exemple. Un passé peut être inhibiteur. Vous pouvez avoir devant le passé une attitude qui vous empêche de bouger. Et puis il y a tout le contraire. Il y a le passé qui est un passé, comment je pourrais dire, une sorte de retour du refoulé qui vous pousse en avant. Là, je suis en train de lire Antonio Negri, par exemple. C'est magnifique comment, pour lui, lire Spinoza dans sa prison. Hein, il a fait son livre, son grand livre sur Spinoza en prison. Donc, il lit Spinoza, un auteur du XVIIe siècle qui parle de Dieu et de je ne sais trop quoi. Et puis, il voit là la plus grande fraîcheur révolutionnaire, c'est le mot qu'il emploie. Donc, c'est là-dessus qu'il faut discuter.
Nos désirs sont tressés de passé, il faut se méfier de tout sentiment ou production nostalgique. C'est la voix du philosophe Georges Didier Huberman. Jean-Gabriel Perriot est en 2015 au micro des Nouvelles Vagues sur France Culture. C'est pas la première fois que vous travaillez avec des archives, qu'elles soient directement utilisées à l'écran, ou qu'elles soient sous-jacentes, ou qu'elles nourrissent le projet. C'est pas la première fois que vous questionnez la manière de tresser notre présent à notre passé. Est-ce que c'est une foi nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a appris autre chose dans la relation à l'archive et au passé? Ce film-là, Nos défaites.
J'ai encore du mal à saisir ce qui s'est joué dans les réinterprétations de ces extraits. Je pense que c'est très compliqué parce que ça passe par le corps, en tout cas c'est passé par leur corps à eux, attraper les mots, etc. Et que seuls eux ont été bougés par ça.
Seuls eux ou vous aussi? Parce que vous avez regardé des extraits films que vous avez choisis, que probablement vous aimez, jouer autrement quand même, bouger autrement.
Oui, mais j'ai un rapport à l'archive qui est un rapport très vivant, d'une certaine manière. Je suis très admiratif du travail de Didier Huberman sur les archives, la manière dont il en parle, et qu'il arrive à mettre les mots sur le fait que l'archive n'est pas du passé. L'archive remise au présent, dans un nouveau montage, acquiert un aspect fantomatique. C'est, on fait ressurgir le fantôme. Et ça crée des courts-circuits entre le présent, le passé. Ça se joue dans un endroit qui est assez indéterminé, qu'il est très difficile de mettre en mots ou de comprendre clairement. Ça passe par d'autres sens, et c'est très dur à totalement saisir. Et j'aime beaucoup cet indéterminé là, cet endroit où on sait pas trop ce qu'on regarde, on sait pas trop où l'on est. Et c'est un autre rapport au savoir, un autre rapport au réel. Et que je fasse des films de montage où je ramène les archives au présent, que je les remonte, ça crée comme ça un espace indéterminé. Et là se joue la même chose. Ça veut dire que mettre ces jeunes corps vivants dans ces images-là, quand je les regarde, j'ai du mal à verbaliser ce que ça me raconte. Il y a une espèce de naturalisme terrible. C'est-à-dire que c'est comme si ces images avaient toujours été comme ça. Et j'ai du mal à... J'arrive bien à voir que c'est de l'archive, et en même temps, je vois qu'ils n'ont pas l'âge de jouer ça. Et pourtant, j'ai accepté voilà ce qu'ils ont fait. Je vois cette nouvelle archive, d'une certaine manière. Je vois quelque chose qui me touche beaucoup, mais sur lequel j'ai du mal à mettre des mots, à comprendre très clairement ce qui se joue là.
Est-ce que ça a renouvelé votre regard sur ces films-là, d'un point de vue purement cinématographique, ces films que vous avez choisis, la fin des années 60, début des années 70, les avez-vous regardés autrement? Pas eux, hein, pas les lycéennes et les lycéens.
Oui, les films. Je ne sais pas, c'est des films qui sont très importants pour moi, à la fois en tant que spectateur, hein, c'est des films que j'ai beaucoup regardés, et c'est aussi des films sur lesquels je travaille régulièrement dans mon cinéma, parce que se jouent dans cette époque-là beaucoup de choses qui m'intéressent, sur le rapport au, justement, est-ce que le cinéma peut agir, comment faire politique avec des films, toutes les questions, on entendait Godard tout à l'heure, mais beaucoup des questions ont été posées dans ce cinéma-là, dans cette période très particulière, en tout cas en France, du documentaire post-68. Donc du coup, c'est des films que j'aime bien retravailler parce que ça me permet d'essayer de les comprendre un peu mieux. Mais c'est pas une nouvelle vision, mais en tout cas, ce travail-là, ça m'a permis de peut-être, sur certains extraits, d'entendre mieux les mots. Parce qu'ils n'étaient plus prononcés par les protagonistes de base, mais il y a certains extraits où de les entendre jouer, il y a des mots qui ressortent, qui ne ressortaient pas autant peut-être pour moi. Ça se joue voilà sur des choses comme ça.
Et acquiert peut-être par ce geste-là une sorte de fraîcheur révolutionnaire dont parlait Georges Didier Huberman, c'est-à-dire que quand bien même il ne s'agirait pas de propos à proprement parler politiques et qui revêtent en eux-mêmes des puissances politiques, en fait le fait de le refaire faire rafraîchit tout ça. Ça me fait penser à un film de montage où vous reprenez des archives de la Seconde Guerre mondiale, une sorte de traversée vertigineuse vers les femmes tondues à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme si par votre montage, nous étions en mesure de regarder ces archives-là, peut-être connues ou pas connues, mais complètement autrement.
Oui, c'est une idée plutôt godardienne de l'archive. Ce qui est très important quand on remonte l'archive, c'est de mettre à nu la manière dont on les monte. De montrer le langage cinématographique, ça c'est très important, parce que ça permet à la fois de montrer que le fait que ces images aient été construites, ou elles ont été construites, et le fait que en tant qu'auteur, quand on se les réapproprie, on les montre telles que nous les avons vues, telles que nous les avons interrogées, et ça fait toujours des films assez construits, on voit le langage. Contrairement à beaucoup du cinéma où on ne voit pas le langage. Et là, dans ces...
On ne voit pas le langage parce que quoi? Parce qu'on veut effacer la manière dont il est produit, on veut effacer l'artifice de la construction?
En fait, il faut... Dans le cinéma, si on veut qu'il soit accepté, regardable, etc., défaire le langage, enfin le taire, malgré sa complexité, c'est très compliqué, le cinéma... Le chant contre chant, par exemple, c'est des choses qui se sont inventées, qui ont été construites. Et il faut invisibiliser absolument le fait qu'il y ait un narrateur, un auteur, que quelqu'un, malgré tout, à l'intérieur de ça, pose un discours, pour faire accepter une certaine forme de neutralité du film ou du propos. Oublier qu'un film a été construit ou que la télévision est construite, c'est oublier le fait que ça soit du discours et des prises de position sur le monde. Tandis que dans le cinéma que je peux faire ou le cinéma que d'autres font, hein, si on revient à Godard, il faut affirmer au contraire que ce que l'on montre, c'est profondément subjectif.
Je pense à une conversation qu'on a eue juste avant l'émission avec Lucie Riandet qui a préparé l'émission et qui me faisait remarquer que c'était un film où il n'y avait quasiment pas justement de chant contre chant, qu'il n'y avait que du chant. Il y a un moment donné où il y a un petit plan sur une jeune femme qui écoute. Elle me faisait remarquer comme étant une rareté. Donc j'imagine un choix de votre part, Jean-Gabriel Perrieux, lequel ?
Ça se passe pas comme ça, le choix. En tout cas, dans ma pratique, il y a beaucoup de choses que je ne verbalise pas, que je constate après, oui, après coup. Et la frontalité du film, elle s'inscrit juste dans le processus que j'ai mis en place sans me questionner sur sur la forme. Mais c'est vrai que les extraits choisis sont des extraits avec très peu de hors-champ. Effectivement, il y a un plan dans la chinoise de Nanterre, enfin, qu'on a rejoint à Évry, et il y a dans un des extraits un plan d'écoute, et que sinon on a choisi des extraits assez frontaux. Ben, comme c'était des extraits sur la parole, on laisse souvent les gens s'exprimer quand même face caméra, et que j'ai reproduit cette chose-là sans trop me préoccuper de ça quand je le faisais.
Mais le constat, une fois que vous l'avez fait, que vous le regardez, ça donne vraiment, par contre, un film frontal, ça donne un face-à-face. Et ça, c'est intéressant de questionner ça. C'est que, finalement, on passe toute la durée du film, 1h20, 22, 23, 24, 26, face à des visages. C'est une des principales expériences que vous proposez. On est face à des visages qui soient en train de rejouer des choses du passé ou qui soient en train de nous parler au présent.
Mais c'est vrai, et du coup ça correspond sur les deux points à mes autres films. Je ne fais pas un cinéma où il y a beaucoup d'espace libre laissé aux spectateurs. Hein. J'ai souvent un cinéma quand même qui guide beaucoup.
Captif.
Voilà, captif. Et la présence des visages est très importante dans mon cinéma, même dans les archives. J'utilise que la présence du corps humain dans les images est quelque chose qui est au cœur de mon travail. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que sur la fiction, j'ai beaucoup de mal à filmer un paysage. J'y arrive pas. J'ai du mal à ce que la caméra ne soit pas sur les personnages. Comme en documentaire, je filme souvent les visages, les gros plans, souvent en plan fixe. Comme si pour moi la caméra ou les archives ne m'intéressent que dans le rapport du spectateur à des visages.
Mais parce que quoi, l'important il est là, parce que c'est l'endroit de l'humanité, c'est l'endroit peut-être, pour reprendre un des extraits que vous faites rejouer, d'une solidarité qui est fondatrice de l'action politique, d'un lien aux autres. Vous diriez qu'on se sent peut-être plus lié aux humains qui nous entourent que quand on regarde juste une forêt ou...
Ouais, peut-être même avant ça, avant d'être lié. C'est-à-dire, on a rarement dans la vie l'occasion de regarder les gens. Et en tout cas, on va toujours souvent regarder des gens qui nous ressemblent. On va regarder des gens dans le métro. Donc, si on est à Paris, on va regarder des Parisiens. Dans le travail, on va regarder des gens qui sont autour de nous. C'est rare qu'on ait l'occasion de regarder quelqu'un.
Cinéma, c'est le lieu pour ça.
C'est pas forcément le lieu pour ça, mais le cinéma le permet. Même dans le cinéma de fiction, hein, dans ce qu'il a de plus classique, ce plaisir incroyable qu'on a en tant que spectateur de regarder les visages d'une comédienne ou d'un comédien ému, il se joue quelque chose là qui appartient au cinéma en propre, et c'est je sais pas, sur un visage, les petits mouvements des joues, les yeux qui papillonnent un peu, ces éclats, on se rapproche dans la vie, on va jamais se rapprocher de quelqu'un sauf de son amoureux, de son amoureuse, pour regarder à ce point-là les visages. Et là, il y a un truc qui résonne sur, oui, le fait d'être humain, en fait. Il y a quelque chose qui, il me semble, on partage tous, et qui est, voilà, qui en tout cas, moi, revient au cœur de ma pratique. J'ai beaucoup de mal à avoir des plans sans humains et, si possible, j'ai très peu de plans sans visage assez serré, quoi.
Et d'ailleurs, le film se termine sur un plan relativement serré du visage d'une jeune femme qu'on a beaucoup vu bouger dans ce film-là. On la découvre. On pourrait la penser très éloignée des questions politiques. Et bon, elle conclut le film d'une manière assez bouleversante. Et on sent que votre caméra ne peut plus s'éloigner de son visage. Qu'on est comme happé, nous, et probablement vous, ou la caméra tenue par les élèves, par ses yeux qui s'embrument. C'est un visage qui est le nom de quoi pour vous, Jean-Gabriel Perrieux ?
Ah, je dirais l'amour. C'est très très beau ce qu'elle raconte dans cette séquence-là, parce que juste avant elle dit que la politique c'est pas son truc, mais qu'elle a compris que ça pouvait servir.
À faire du mal aussi, dit-elle.
Oui, à la condition que l'on ne fasse pas du mal aux personnes. Elle le dit avec ses mots, mais en tout cas, elle a compris que la politique pouvait faire mal aussi. Et qu'elle a cette espèce d'hésitation là, on sent qu'elle, enfin en tout cas moi je sentais qu'elle avait cette chose à dire et c'était la fin, c'était la dernière à être interviewée. Il faisait très froid et je sens son hésitation et quand elle dit voilà ce que je veux dire c'est aimez-vous, aimez la vie, battez-vous pour le meilleur. Pour moi elle dit tout ce qu'il y a de plus important. En tout cas mes convictions, elle exprime ma propre conviction. C'est-à-dire il faut se battre par amour, faut se battre pour un futur, et faut arrêter de se battre tout le temps contre. Et puis dans le fond, oui, on se bat pour être humain, on se bat pour ça, quoi, pour des choses qui sont tellement importantes, simples et importantes. Dans le film, on voit que ses parents et son petit copain lui disent que l'art, ça sert à rien, et que les ouvriers ne peuvent pas aimer la poésie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Non, je suis pas d'accord. Tout le monde peut aimer l'art et la poésie. C'est juste une question de goût, c'est pas une question... Même les ouvriers peuvent aimer ça. C'est pas une question de classe sociale.
Elle dit de son copain qu'il attend le bonheur, mais qu'il n'y croit plus. Est-ce que toi, tu crois au bonheur ?
Oui, je crois au bonheur. C'est juste que... le bonheur il vient comme ça, on peut pas l'attendre et il faut pas le chercher.
Est-ce que tu arriverais à définir ce que c'est le bonheur ?
Non, parce que le bonheur c'est différent pour chacun. C'est différent pour chacun, on peut pas savoir on peut pas être heureux comme tout le monde en fait. Et chacun a son bonheur à lui et
Et pour toi, ton bonheur à toi, c'est quoi ?
Je me contente de ce que j'ai. Et je suis heureuse comme ça.
C'est un autre extrait de votre film Nos défaites, Jean-Gabriel Perriot. Et c'est une autre jeune femme encore. Et on pourrait considérer que la fin de cette conversation est une fin complètement anti-révolutionnaire. Je me contente de ce que j'ai et je suis heureuse comme ça. Ça pourrait être une sorte d'appel au statu quo total. Ne bougeons rien, on a chacun notre petit bonheur et puis c'est cela l'essentiel. Pourquoi pas une sorte d'achat de la paix sociale ? Est-ce que vous étiez aussi ouvert, alors manifestement oui, mais à faire aussi rentrer une sorte de, même si c'est pas du tout le cas pour cette jeune fille, c'est plus compliqué, mais de penser pas très mobile ?
Forcément, il fallait faire avec ce qu'il racontait. Par exemple, ça me rappelle les deux moments où ils disent qu'ils sont trop jeunes pour s'engager, ou que les étudiants sont trop jeunes pour se rebeller, pour manifester. Il faut donner. Ils sont neufs à l'image. Ils ont des endroits différents de place et de aussi une manière de se protéger encore de la du réel et de se dire bon, c'est pas encore tout à fait l'heure là pour que j'y aille. C'est pas encore. Il y a là forcément de la protection, mais.
Mais ce qu'on peut leur concéder en même temps ?
Oui, évidemment, parce que de toute façon, en tant qu'adulte, on se protège, on est les premiers à se protéger, donc c'est normal qu'ils se protègent aussi.
Quand vous leur avez montré, j'imagine, le film, ils ont réagi comment ?
Alors, ils étaient très surpris parce qu'ils n'avaient aucune idée du film qui allait arriver. Moi non plus, d'ailleurs, jusqu'au moment où j'ai monté. Et ils étaient forcément gênés du fait de se voir. Ça, c'est jamais très très agréable. Mais on a eu une discussion assez franche et assez étonnante parce que moi j'avais besoin de, quand j'aurais montré le premier montage, j'avais besoin de voir avec eux ce que eux pensaient des moments où ils répondent à côté, des moments où ils se trompent, parce que c'est une drôle d'image que ça pouvait laisser d'eux. Je voulais pas les mettre mal à l'aise, donc du coup j'aurais montré assez tôt et j'ai retouché le film après ça et. Je sais pas, c'est une discussion assez, assez étonnante. La question du titre les a beaucoup surpris. Enfin, la question du titre les a beaucoup surpris. On en a discuté. J'ai l'impression qu'ils comprennent quand même, qu'ils ont compris le film une fois qu'on a tourné la deuxième partie du film. C'est-à-dire cette conclusion qui n'existait pas quand je leur ai montré le premier montage a changé leur regard sur le film et aujourd'hui ils le comprennent évidemment beaucoup mieux que deux ou trois mois après le tournage.
Vous aviez besoin qu'il y ait une autre forme de conclusion, enfin qu'il y ait du temps qui passe et de voir peut-être comme dans un laboratoire en chimie entre guillemets les résultats de ce que vous aviez pu agiter, Jean-Gabriel Perriot.
Non, ça
donc
c'est
il y a le... juin 2018 et il y a décembre 2018.
Non, c'est vraiment la vie réelle qui s'est insérée dedans. On ne pouvait pas prévoir ni les gilets jaunes, ni les grèves lycéennes, ni ensuite le blocus à Ivry. Et du coup, d'une certaine manière, j'avais un film fini et qui s'arrêtait. Voilà, plus suspendu en tout cas. On était un peu, on sortait un peu seul en se disant bon, qu'est-ce qui va leur arriver à ces lycéens. Et c'est vrai que quand le rêve arrive, et pour moi il arrive par Mantes-la-Jolie, par les images de Mantes-la-Jolie, quand elles ont débarqué, j'étais vraiment, c'était très dur à recevoir ces images-là. Je me disais,
vous pouvez les rappeler rapidement.
Alors en fait, suite à une manifestation à Mantes-la-Jolie des lycéens, il y a eu deux trois, ils ont dû brûler des poubelles. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'un peu insignifiant.
Et un tag aussi.
Un tag déjà à l'époque. Je me rappelle plus vraiment du début, mais en tout cas, d'un coup, la police débarque en nombre et les parque dans un parking, les fait mettre à genoux, les mains sur la tête, et leur demande de ne pas bouger le temps que les fourgons arrivent les uns après les autres. Et un policier avec son téléphone portable a filmé ça. Et on entend les commentaires de lui et de ses collègues. Voilà, enfin une classe qui se tient sage. Si on montrait ça à leur professeur, ils en reviendraient pas. Des choses comme ça, très agressives, diffusées sur les réseaux sociaux. Et c'est la première fois, en tout cas en France, qu'on a ce type d'image filmée par un policier. Et il y a eu, en tout cas pour moi, un moment d'inacceptable, complet. On peut pas faire ça à des gamins de 17 ans. Enfin, et du coup, comme j'avais les lycéens avec qui j'étais encore en contact, j'avais besoin de savoir ce que eux en pensaient. Et du coup, en les appelant, on en a discuté. Et là, ils m'ont appris que de leur côté, ils bloquaient le lycée depuis une semaine. Parce qu'il y avait eu un tag devant l'école, Macron démission. Et que du coup, six jeunes, dont enfin mineurs, avaient été placés en garde à vue 36 heures et que ça avait commencé un blocus. Ils demandaient le retrait de la plainte de la proviseure envers ses élèves. Et j'aurais proposé tout de suite qu'on continue le film, c'est-à-dire qu'on reprenne les images de Mantes-la-Jolie, qu'on en parle et qu'on parle de leur action du moment.
Et ça donne la fin de nos défaites ou le début d'autre chose. Merci beaucoup Jean-Gabriel Perriot. Le film est en salle à partir du 9 octobre. Et puis j'imagine que vous allez vous promener un petit peu partout pour avoir d'autres paroles, d'autres jeunes gens ou moins jeunes gens en discussion et en rencontre. Gros planning,
mais je suis très content parce que j'ai beaucoup de lycéens à rencontrer et que les discussions avec les lycéens sont vraiment très très passionnantes.
Et qu'elles se poursuivent d'une certaine manière. Merci à vous. À la réalisation ce soir, c'était Lise-Marie Barré. À la prise de son, c'était Nicolas de Pagraf. Par les temps qui courent, c'est Lucie Riondet, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Romain de Becdelière. C'est aussi une page sur franceculture.fr, Par les temps qui courent, et un podcast via l'appli de Radio France. Dans un instant, 22h, et le journal sur France Culture.